Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Ouais, début de la troisième heure de l'émission ce soir, alors que les gens commencent à sortir de la place Belle à Laval, où on a vécu de belles émotions sportives, humaines également. Les gens ont chanté une chanson des Cowboys tous ensemble. Martin Paul m'écrit, je viens de sortir de la place Belle, j'ai offert cette partie à mon ami Simon pour sa fête. Très belle game, à l'exception de la première période. 40 minutes intenses à la fin. Pour les gens qui ne savent pas ce qui s'est passé, ben le Rocket perdait 4-0, remonté, il gagne 6-4. On y reviendra. De toute façon, Stéphane Leroux sera là un petit peu plus tard. J'avais très hâte de lui parler, en fait. Je pensais lui parler plus tôt, mais ça a été une émission un petit peu différente ce soir dans les circonstances avec la nouvelle qu'on a apprise en début de soirée. Le dossier de Québec depuis hier, ou le dossier de la subvention à Gestev pour accueillir les Kings de Los Angeles, les Bruins de Boston et les Panthers de la Floride a beaucoup fait jaser. Il y a eu plusieurs échanges sur diverses stations, sur diverses plateformes aujourd'hui. Jérôme Landry du FM 93 est avec nous. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir, Mario.
Je t'ai vu arborer fièrement la casquette des Kings. Fait que j'ai vu là quand même qu'au plan sportif, très certainement que c'est une bonne nouvelle au plan sportif. C'est la subvention qui parle serré. Comment t'arrimes ton côté amateur de sport puis ton côté, de logique financière et fiscale?
Ben, c'est ça. Quand je me suis réveillé ce matin, hier matin, je me sentais avec deux personnalités. Tu sais, le maniaque de hockey en moi était très, très heureux de cette nouvelle-là parce que, écoute, j'ai même le goût de prendre des vacances moi, pendant cette semaine-là parce qu'il n'y a pas juste les deux matchs. Hein. Il y a le camp d'entraînement, il va y avoir des pratiques publiques des Kings aussi. On nous parle de d'autres activités autour de ça aussi pour financer le hockey mineur à Québec. Je ne sais pas s'il va y avoir un accès aux joueurs, mais moi, l'activité comme telle, comme amateur de hockey, ça m'emballe au plus haut point. En même temps, je comprends aussi le malaise avec la subvention de 5 millions, Mario. Ça, c'est difficile de défendre ça, surtout dans le contexte actuel. Mais tu sais, en même temps, puis moi, je suis derrière les employés de l'État, là, je l'ai dit souvent à la radio, là, dans cette négociation-là avec le gouvernement, mais t'as beau mettre ce 5 millions-là sur la table, là, à Sonia Lebel, là, il y aura rien de réglé.
Ben non, c'est des peanuts, on le sait tous, mais c'est la symbolique, c'est la fameuse symbolique.
C'est la symbolique, c'est le symbole. Mais tu sais, Mario, je veux bien qu'on fasse le débat sur la subvention, mais si on fait le débat, on va le faire sur toutes les subventions dans le monde du sport. Tu sais, moi, quand je regarde ça aller là dans les journaux à distance de Québec, les centaines de millions qu'on s'apprête à mettre sur le stade olympique dans lequel...
Jérôme, je veux juste te mettre un petit haut-là là-dessus. Ça fait 25 ans qu'ils sont supposés de le mettre, puis c'est pas fait encore. Trouve-moi ça de meilleur. Mais non, mais en ce sens que tu le sais, tu sais, je sais même pas si on a le courage de le faire, même si c'est nécessaire. Je pense que oui. Mais oublie pas une affaire. Ça devait être l'équivalence du centre Vidéotron, si t'es juste.
Oui, bien exactement. Mais on a ce débat-là aussi. On a eu à peu près le même débat avec le centre Vidéotron. T'sais, à chaque fois qu'on parle de financement public dans le sport, on a cette discussion-là. Puis c'est bien correct. Sauf que si on finançait rien, si le gouvernement intervenait dans rien dans le monde du sport, à part le Canadien de Montréal, qu'est-ce qui resterait au Québec? Est-ce qu'on aurait un Grand Prix de Formule 1? Puis, tu sais, Mario, je suis tout à fait conscient que le Grand Prix de Formule 1, il y a un impact, je veux dire, 1 million de fois supérieur à l'impact que vont avoir deux matchs au concours des Kings à Québec. Je suis tout à fait conscient de ça, mais des subventions, il y en a partout, à tous les jours. On me dit qu'Evenco, je vais fouiller ça d'ailleurs cette semaine, Evenco reçoit pas mal de subventions, semble-t-il aussi, selon ce que des sources m'indiquent. Mais là, on a décidé de faire un débat là-dessus. J'ose pas dire, Mario, que c'est parce que c'est à Québec, là. Je n'irai pas jusqu'à dire ça, là. Je peux pas croire que c'est comme ça qu'on réfléchit. Mais moi, j'ai parlé à des gens aujourd'hui, Mario.
Moi aussi.
Parce que je suis pas fou, là. Moi, je suis content. Mais j'ai parlé à des gens qui travaillent justement dans l'événementiel, l'organisation d'événements sportifs, appelons ça comme ça, qui me disaient, à 5 millions, là, on aurait peut-être pu exiger d'avoir un match de saison régulière. Pour deux matchs hors concours, on aurait peut-être pu couper de moitié le chiffre. Tu sais, fait pas fou, là. Tu sais, je vois qu'il y a quand même une...
Mais tu vas poser la question sur un autre angle, puis tu analyses la situation, puis la réalité politique sur une base quotidienne. Tu parles à tes auditeurs. Demain matin, là, la CAQ est-tu plus populaire ou... La CAQ est-elle plus populaire à Québec de cette activité-là et de ce financement-là?
Non, au contraire, je pense qu'ils se sont même fait des ennemis, parce que moi, je suis en faveur de ça, mais je suis obligé de t'admettre, Mario, là, que... Là, je sens pas le buzz. On va voir vendredi avec la vente des billets, mais il y a beaucoup de gens à Québec aussi qui sont en désaccord avec cette subvention-là, qui sont mal à l'aise avec ça aussi. Ça, faut que je te...
Parce qu'il y a des employés de l'État dans la région de Québec également, puis les gens font le lien, même si on trouve pas que des fois, c'est de comparer des pommes avec des pommes. Je te rejoins là-dessus, tu sais, on a eu en masse dans le temps, tu sais, les arguments que j'entendais aujourd'hui, parce que bon, ben moi, j'arrivais en onde seulement ce soir, puis avec la nouvelle du décès de Carl Tremblay, ça a pas été le premier élément que j'ai abordé dans l'émission, fait que... Donc, oui, écoute, dans le temps des expos, dans le temps des Nordiques, du casino de Marcel, puis tout ça. Ça fait des décennies qu'on a les mêmes conversations, mais il faut reconnaître une chose.
Ben oui.
À part le Canadien, tout est le fruit d'une implication de l'État. Les Jeux Olympiques, la Coupe du monde de aquatique, la FINA, name it. Je suis sûr qu'il y a eu des subventions pour les championnats du monde de hockey sur glace en 2008 à Québec. T'sais, ils sont fouillés un
absolument.
Peu.
Pour le championnat junior à Montréal aussi. Là,
même affaire.
De ramener le championnat de hockey junior à Québec, ça fait partie des plans du ministre, là, parce que j'ai parlé hier à M. Girard, puis il nous expliquait justement que c'est pas juste un événement qu'on veut amener à Québec, mais le championnat du monde de hockey junior fait aussi partie des événements que le gouvernement pourrait subventionner au cours des prochaines années pour Québec, comme ça a été le cas pour Montréal aussi. Puis je t'écoutais tantôt, tu disais, tu savais un peu où il s'en va, le ministre, avec ça. Ben, effectivement, je pense que ça s'inscrit encore dans une tentative d'entretenir des bons liens avec la Ligue nationale de hockey. Encore là, c'est ce qu'on va vivre à Québec.
Ben, Jérôme, moi, hier, j'avais entrepris d'écrire ma pensée là-dessus, un billet. Puis là, ben, quand j'ai su, bon, par rapport à l'histoire du Canadien, il y a-tu qui tourne ça en rivalité? Il y a une toile de fond de rivalité Québec-Montréal là, qu'on tente d'attiser pour bâtir l'argumentaire autour de ça. Puis j'ai eu l'occasion d'avoir des conversations pendant la journée. Bon, c'est sûr que quand tu compares le fait que le Canadien allait là gratis, mettons, puis que... Mais je sais que le Canadien ne reste pas là pendant 5 jours, couché des nuitées à l'hôtel. Il arrivait puis repartait avec la moitié d'un alignement.
Oui,
les gens l'ont encore sur le cœur, je le sais. Et je sais aussi, mais selon mes informations, je sais pas si tu as eu des conversations qui viennent les valider, mais de toute façon, je le sais de sources sûres, que... Le Canadien était informé de la visite des Kings parce que il y a du dédouanage à faire par rapport aux droits territoriaux. Fait que le Canadien a pas appris ça hier que les Kings s'en allaient passer une semaine. Par contre, ils ont peut-être appris hier, c'est le 5 millions. Moi, je pense que c'est ça qui a mis le feu, là, tu sais. Mais.
Possiblement, Mario.
Mais il y en a qui ont dit, si le Canadien a demandé, tu sais, je me suis fait dire que si jamais le Canadien a demandé des matchs en sachant ce qu'il savait déjà, c'est parce que il voulait se faire dire non, parce qu'il savait qu'il y avait un contrat d'exclusivité, semblait-il, avec les Kings pour cet événement-là.
C'est que c'était pas un non, c'est qu'il était trop tard, parce que le contrat était signé déjà avec les Kings. Mais ce que je comprends pas, Mario, puis je l'ai dit en tout respect pour l'organisation du Canadien, c'est pourquoi ils ont ébruité ça dans les dernières heures. C'est-tu pour faire mal paraître Québécois? Tu sais, je comprends la guerre belle Québécois, je comprends ça, mais pourquoi le Canadien...
Mais ils font de la business, pareil.
Ébruiter ça, là, je le comprends pas, ce boulot, Mario, je comprends pas.
Ben,
c'est des tractations de coulisses. On sait peut-être que le Canadien va revenir dans les prochaines années. Je comprends pas c'était quoi l'intérêt du Canadien d'ébruiter ce bout-là de l'histoire. Alors que le Canadien savait qu'il y avait un contrat qui était signé avec les Kings. J'ai de la misère avec ce bout-là.
Ben, moi, je pense que je t'ai suggéré une piste de réponse dans ma question précédente. Mmh. C'est que moi, je pense que c'est la subvention. Tu sais, si t'annonces que Los Angeles vient jouer une semaine, Jeff Molson le sait depuis bien avant l'annonce publique, les Kings vont être à Québec. OK, c'est correct. Ils vont jouer contre deux autres clubs. OK, tu sais, peut-être que... Ça fait pas leur affaire parce qu'eux autres, c'est une belle façon de conserver leur clientèle quand ils vont jouer un match à Québec, mais ils sont pas allés de plein bout. Mais moi, je pense vraiment que là, à partir du moment que, tu penses qu'Evenco a des subventions, il a été rapporté qu'eux autres en ont pas eu pour accueillir les Blue Jays, pour accueillir les Raptors. C'est pas une semaine. Je comprends que c'est encore une fois, c'est des pommes avec des oranges. Mais il reste que, c'est sûr et certain que tu sais que tout le monde court après l'argent, là. Tu sais, tout le monde est en position de quêter de l'argent, puis ça vient pas. Fait que je pense que c'est vraiment ça. Je comprends la démarche du ministre Girard. Mais c'est une démarche pas tout à fait avouée, pour pas passer pour un gars qui met de la pression sur la ligue, tu me suis?
Oui, je te suis très, très bien.
Tu sais, fait que...
Je te suis très, très bien, Mario, là.
Ça fait que, tu sais, lui, il a peut-être fait un petit faux pas, peut-être pas dans sa grande démarche, mais dans ce qu'il gère ici au Québec, dans perception, il y a quelque chose à régler, puis il était nulle part aujourd'hui pour y répondre à ça, là.
Absolument. Puis la réalité, Mario, on en parlait en début dans notre vue, c'est que la CAQ a des choses à se faire pardonner dans la région de Québec.
Ben
on ne le cachera pas, là. Avec le troisième lien, recul, avance. Sauf que je pense que ils ont réussi à augmenter encore le cynisme. Si c'était possible, ils ont réussi encore à augmenter le cynisme. On dirait que des fois, la CAQ, on dirait qu'ils pensent qu'en parlant de hockey, c'est comme si c'était le mot magique. Puis là, on regagnait tout le monde. Comme s'ils s'étaient fait dire dans des études de marché puis des études de société. Dès que tu parles de hockey au Québec, que tu vas uniquement te faire des amis, alors que la réalité n'est pas comme ça, pas du tout.
Puis j'ai des échos que, tu sais, Gestève, selon mes informations, n'aurait pas demandé une scène de subvention. Ils vont pas cracher dessus, là, on s'entend. Mais que, tu sais, c'est un dossier vraiment ficelé de pas mal de A à Z par le ministre. Fait que, tu sais, je pense, y a-tu surévalué l'intérêt que pouvait... Toi, t'as l'air emballé, mais je pense qu'il surévalue peut-être l'intérêt que ça peut générer. Ouais, mais moi, je veux pas tuer le buzz avant de voir s'il va y en avoir un. Je suis juste curieux.
C'est ça. Moi, je suis un maniaque de hockey, Mario. C'est sûr que je vais être là avec mon fils puis tout ça parce que, tu sais, Martin Leclerc, en tout respect, c'est un journaliste pour qui j'ai énormément de respect. Mais lui, dans son article ce matin, il parlait d'un événement sans intérêt. Ben, je m'excuse, mais à Québec, on n'a pas toujours la chance de voir des matchs de la Ligue nationale, que ce soit hors concours ou saison régulière. Il y a bien des gens à Québec qui vont trouver que il y a de l'intérêt à aller voir ça. C'est pas tout le monde qui a la chance d'aller au Centre Bell régulièrement non plus à Québec. Et puis, pour revenir à Québécois, Mario, moi, je sais que dans les dernières années, Québécois a essayé d'autres équipes aussi, d'autres équipes que le Canadien, parce que, on se le cachera pas, la relation entre Québécois et le Canadien, tu sais, des fois, il y a un mariage de raison là, avec la diffusion des matchs de la Ligue nationale, c'est les droits de la Ligue. Mais je sais que Québécois a essayé dans les dernières années, entre autres, d'attirer les Prédateurs de Nashville à Québec. Ça, je te parle à l'époque où Piqué Souban portait les couleurs des Prédateurs. Je ne sais pas si c'était un pied de nez aux Canadiens, mais l'histoire derrière l'histoire, Mario, là, pour paraphraser Martin Saint-Louis, la game dans la game, c'est que il y a un peu de tension encore entre Québécois. Puis il y a des gens chez Québécois, Mario, qui pensent que si Québec n'est pas de retour dans la Ligue nationale, il faut peut-être se tourner vers Jeff Molson. Puis qui en veulent un peu à Jeff Molson que ce projet-là ne soit pas encore réalisé.
Ben, c'est sûr que là...
Le Canadien ne veut pas des Nordiques.
Mais malgré le plaidoyer qui venait à la défense de Jeff Molson, de Jeff Molson de la part de Gary Bettman, tu te rappelles quand il a dit ça?
Oui.
C'est lui qui a voulu aller sur ce sujet-là, dire « Hey, pensez pas que Jeff Molson, il est pas pour. » Fait, mais écoute, tu sais... Je suis pas dans sa tête, Jérôme. Toi, t'as pas l'air à le croire.
Ben, c'est parce que je le comprends. J'essaierais de protéger mon marché, moi aussi. Je veux dire, c'est une tarte. Les Nordiques reviennent demain matin, Mario. Le Canadien perd pas 50% de son marché, mais en perd peut-être, je sais pas moi, 15-20% du marché québécois, peut-être qu'il se tournerait vers le centre Vidéotron puis les objets promotionnels des Nordiques. Tu sais, c'était à peu près ça à l'époque. Tu sais, c'est quand même une part importante. Mais moi, je continue de penser que ce serait bon pour tout le monde. Ce serait bon pour TVA Sport. Ce serait bon pour RDS aussi.
C'est
ce serait bon pour nous autres, la radio aussi, là. Les médias, qu'on est une deuxième équipe au Québec, c'est...
Mais j'ai une petite question pour toi, Jérôme, en terminant. Oui. Moi, je me dis, en essayant de comprendre les non-dits, hein, des fois, il faut lire entre les lignes, que le ministre Girard, il continue tranquillement, même si, tu sais, il n'y a pas grand... Tu sais, je pense qu'il y a bien du monde qui ont trouvé ça drôle quand il est sorti publiquement puis qu'il a pris des initiatives. Tu sais, on dit qu'il va revoir Gary Bettman une deuxième fois. Moi, je pense que ça va être plus une quatrième fois qu'une deuxième fois, en passant. Là. Donc, la question que je me pose, c'est que toi, là, t'en iras-tu rencontrer, mettons, un commissaire de ligue si, en arrière, si un jour une opportunité se présente, il n'y a pas personne pour signer le chèque?
Bon, ben là, toute la question est là. Moi, hier, il m'a parlé d'un consortium au conditionnel. Il m'a dit, si un jour il y a une expansion, puis parenthèse, Luc Robitaille, il m'a dit hier, d'ici 4 à 5 ans, là, c'est pas pour demain matin une expansion dans la Ligue nationale, mais le ministre m'a dit, si un jour il y a expansion, ce sera un consortium. Ce sera pas Québécois tout seul qui va signer le chèque, comme tu dis, Mario, là.
Et donc, est-ce que ça veut dire que le ministre, s'ils sont encore là, en temps et lieu, est en meilleure position pour rassembler un consortium que ne l'était M. Pelado?
J'ai pas la réponse, mais ça ressemblait à ça, Mario. Je peux pas te l'affirmer, mais dans ce qu'il me disait hier en don de la radio, là, ça ressemblait un peu à ça. C'est la conclusion que je me suis faite dans ma tête.
OK, fait qu'on arrive à la même conclusion, que tu t'en vas pas là si tu sais pas s'il y a quelqu'un qui va signer le chèque au bout, là, même s'ils font pas de bruit. Fait qu'il y a quelqu'un d'identifié, là, c'est sûr.
Il y a probablement des gens d'identifié, il y a rien qui a coulé. T'sais, on parle souvent des démarrés, Mario, mais je pense pas qu'il y ait du sérieux dans ça. Leur nom revient tout le temps, à un moment donné, dans les rumeurs et dans l'actualité. Je pense pas que ce soit eux, mais
ça sera ailleurs.
Le sport professionnel, c'est payant, Mario. Hein, c'est la propriété télévisuelle du sport en direct, c'est ce qui est payant actuellement pour les réseaux. Donc, Québécois a encore un intérêt, mais une fois qu'on a dit ça, quelles pourraient être les autres entreprises? Regarde, pour l'instant, je suis un peu dans le néant là-dessus. Un peu dans le néant.
Je termine avec un texto de Yvan qui nous écoute depuis le Nevada en direct en disant « Monsieur Girard a une très bonne poker face ». Écoute, on peut faire bien des lectures dans ce qu'il a annoncé hier. C'est selon d'où on vient, ce qu'on présente, si on est sur le bord d'un conflit de travail ou en tout cas, si on est à Hockey Québec, ouais. Si on est à Sport Québec. Mais voyons la suite. Merci de cette conversation, Jérôme, puis bonne fête en passant.
Hey, merci, Mario, t'es gentil.
Hey, 47 ans, c'est drôle, ouais. Parce que, tu sais, veux pas, on dirait que c'est un chiffre. Tu sais, quand on perd un grand comme Carl Tremblay à 47 ans, c'est jeune, hein? C'est-tu jeune? Imagine comment tu te sens jeune.
Écoute, moi, ça m'a frappé. Écoute, vois-tu, ma conjointe, ma blonde, qui est avec moi ce soir, était à son dernier spectacle au Festival d'été. J'ai l'impression qu'elle a quasiment perdu quelqu'un qu'elle connaissait, mais moi, c'est ça qui m'a frappé, l'âge. 47 ans, j'ai eu ça aujourd'hui, puis lui est décédé, laisse des enfants derrière lui, ça pogne au cœur, Mario, de penser à ça, cette histoire-là.
Il n'y a aucun doute. Hey, ouais. C'était quelque chose, j'étais pas là au festival d'été, mais je voyais juste les images passer, puis je regardais ça encore aujourd'hui, là, c'est bouleversant. J'entendais Robert Charlebois en parler. Oui. C'était comme une expérience métaphysique, là.
Exact, puis Robert Charlebois a fait la première partie. Quand c'est Robert Charlebois qui fait ta première partie, c'est parce que ça va assez bien. Tu sais que le festival, pour une rare fois, avait prolongé le festival à Québec. On avait fait un lundi soir en prolongation parce que lors de la première tentative pour le spectacle, il avait plu. Carl Tremblay avait essayé de chanter. Puis finalement, il pleuvait trop. On a annulé le spectacle. Puis on a fait quelque chose de totalement exceptionnel au Festival d'été de Québec. On a prolongé une soirée de plus un lundi, ce qui s'était jamais vu. Puis les gens qui étaient là ici à Québec en parlent avec beaucoup de nostalgie puis parlent d'un moment historique ce soir-là sur les films.
Écoute, c'est quelque chose. Jérôme, un gros merci. Ouais. Bonne fin de soirée. Salut, merci d'avoir veillé bonne avec mission, nous. Mario. Bye bye. Merci à toi.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Avec Stéphane White qui reste avec moi en studio ce soir, on va se diriger à quelques heures de vol d'ici pour retrouver notre ami André Tourigny qui se prépare à affronter les Blue Jackets de Columbus demain au lendemain d'une défaite, mais en prolongation contre les Stars de Dallas. Salut André.
Salut Mario, comment ça va?
Ça va très très bien, toi-même mon cher?
Ça va bien.
Oui, alors défaite en prolongation contre... Stéphane, oui.
Salut André, comment ça va?
Salut Stéphane, ça va?
Ça va bien, ça va très bien.
Dallas, c'est un bon club, hein, André?
Oui. Tu sais, c'est un vrai club de vétérans. La Ligue nationale, c'est une ligue de jeunes, mais ça reste que quand tu as un club de vétérans comme eux autres, là, ils sont calmes, ils sont constants, ils jouent de la bonne façon. Ils font pas beaucoup d'erreurs. À tout moment dans le match, ils peuvent frapper. Puis honnêtement, là, ils jouent vraiment une bonne game. Donc,
si un club, écoute, c'est tout à fait hypothétique, là, mais il me semble qu'il y a tellement de tendance lourde à vouloir rajeunir les clubs que s'il y avait un club de vétérans qui affrontait un club de recrues en finale, je pense que je prendrais pour le club de vétérans. Mais sur qui tu mettrais ton vieux 2, toi, André?
C'est une bonne question. Si tu regardes l'année passée, on peut dire ce qu'on veut, là. Il n'y a pas grand jeune à Vegas. C'est qui les jeunes à Vegas? C'est la même chose si tu vas à Tampa Bay qui ont gagné les deux coupes avant. Ils ont gagné deux coupes avant. Et si tu regardes leur alignement, là, il n'y a pas de jeunes tant que ça. Là. Il n'y a pas grand monde là, qui est sur des entry levels. Il y a Colorado qui a gagné, qui était il y en a qui disaient qu'il était jeune parce que McCarr était jeune, mais à propos de ça, là, il me disait quoi? C'était pas une équipe qui était jeune. C'est une équipe qui était dans la fleur de l'âge, oui, mais c'était pas une équipe qui était jeune. Donc, Les jeunes, c'est souvent spectaculaire, mais les championnats, c'est souvent de l'expérience.
Ouais, mais quand tu te rends en finale, souvent, c'est parce que tu as une équipe mature. Puis quand tu as une équipe mature, c'est parce que souvent, c'est lié par beaucoup de vétérans. Donc,
savez-vous ce qui incarne ça? Je trouve un gars qui incarne ça, que tu sais, on pouvait penser qu'il n'y avait plus rien dans la tank. C'était un gars comme Eric Stahl, tu sais, qui oui. Tu sais, l'été 2021 avec Montréal, puis l'an passé, Corey hein, Perry. André? Corey Perry aussi, des gars. Hein?
Ouais. Tu sais, quand les Canadiens y ont été, là, tu sais, l'année d'avant, les Canadiens étaient pas prêts à y aller, mais ils ont rajouté beaucoup de vétérans. Tu sais, si tu regardes les moves qui avaient été faits, les Toffoli, puis etc., là, les Edmundston, puis etc. C'est des vétérans qui avaient déjà passé par là. Puis, l'équipe a changé parce que justement, ces vétérans-là n'étaient plus là l'année suivante. Paul Byron t'a blessé. Carey Price t'a parti. Charles Minston t'a parti. Shea Weber t'a parti. Ces vétérans-là, c'est souvent des clubs qui stabilisent. Saint-Louis, ils vont comment depuis que Pietrangelo est parti? Ces vétérans-là,
ouais, Pietrangelo,
ils stabilisent ton équipe, ils rendent les autres meilleurs.
Ah, il n'y a pas de doute. Puis les minutes de glace, écoute, c'est Pietrangelo, c'est pas souvent en bas de quoi? De 24-25, là? C'est
24-25. Ouais. Ils ont des bons jeunes. Là. Si tu regardes Thomas et Roberts, tout le monde disait, ça va être. Moi et eux autres vont prendre la place des O'Reilly, etc. etc. Ouais, mais ces bons vétérans-là, ils rendent les autres meilleurs. C'est pas juste qu'eux autres sont bons, c'est qu'ils rendent les autres meilleurs. Donc, ça a un intangible, ça se calcule pas. Ça se calculait, ça serait bien, bien le fun. Mais dans la vraie vie, ça se calcule pas.
Il y a quelque chose qui se calcule très bien, c'est les buts et les passes, les statistiques. Les gens regardent ça, suivent ça à travers leur pool. J'ai fait une petite publication sur mes réseaux sociaux, puis j'étais curieux d'avoir ton opinion là-dessus. Je sais que c'est juste une photo d'un segment de la saison, le premier segment de la saison, mais je remarquais que, bon, évidemment que c'est circonstanciel, et McDavid, Drysdale, là, se rapprochent tranquillement. Ils vont les rattraper là, dans le classement des top marqueur, mais pour l'instant, ils font pas partie du top 12. Le Drysdale est 13e ce soir. Mais ce que j'ai remarqué encore plus en l'absence de McDavid, c'est qu'il y a un seul joueur canadien dans le top 12, 13 des meilleurs marqueurs. Même au-delà de ça, Drysdale, Kyle Connor, c'est un Américain. Un seul Canadien, c'est Sam Reinhart. Bon, bien que ce soit circonstanciel, c'est de plus en plus là, la nouvelle réalité du classement des marqueurs de la Ligue nationale. Même en une fin de saison, le talent international, le talent américain prend pas mal de la place de ce côté-là. André, toi qui as toujours eu à cœur le développement du talent canadien, as-tu une explication?
Ben, c'est sûr que, comme tu dis, pour moi, le Canada, c'est joue la game de bonne façon, sauf que,
ouais.
Écoute, là, si tu veux gager, Mario, t'as pas le choix de gager pour les États-Unis. Si on est 35 millions, ils sont 350. Puis en plus, ils ont les moyens monétaires. C'est avant, le hockey était joué aux États-Unis dans, mettons, on va dire, le tiers du pays.
C'était marginal.
C'est devenu la moitié du pays. Maintenant, c'est quasiment, on va dire, 80% des États, parce que le hockey, plus que ça, 90% des États, parce que le hockey est très populaire. Donc, les chefs vont jouer contre nous autres à un moment donné. Là. Ça va être... si on veut rester compétitif avec un pays qui sont 350 millions et qui mettent les ressources monétaires, écoute, c'est...
C'est juste la nouvelle réalité, puis il y a une logique derrière ça. C'est pas une question de développement ou...
Moi, je me souviens quand j'étais au Colorado... C'était en 2013, c'était les Olympiques. Puis c'est 2013-2014, les Olympiques. Puis on a gagné les Olympiques. Puis le but de Crosby, puis tout ça. Puis ensuite de ça, je m'en allais à l'aréna, mes gars jouaient. Puis il y a un parent qui m'a dit profite-en, ça achève. Donc là, je l'avais regardé en voulant dire voyons, toi. Puis il avait dit non, mais je voulais pas être arrogant en disant ça. Je veux juste dire qu'on est 350 millions. Puis on a de l'argent, puis à cette heure, tout le monde joue. C'est que c'est une question de temps. Donc, à ce moment-là, je l'avais pas dit un mot, mais dans ma tête, j'avais pris le travail. Puis après ça, analyser tout ça, je me dis, ouais, mais c'est une réalité que, écoute, on est encore le meilleur pays, on se bat encore, mais éventuellement, c'est sûr que quand tu as des Austin Matthews qui sortent de l'Arizona, puis là, il y en a d'autres.
Et Jack Hughes, puis ça finit plus, là, la famille au complet.
Ça,
puis...
le, Il y en a qui arrivent de Saint-Louis, il y en a qui arrivent de la Floride, il y en a qui arrivent de partout. C'est tous des États qui n'étaient pas dans la course avant. Fait que c'est sûr que ça complique les choses.
Oui, mais au bout de la ligne, tu gagnes. Puis la plupart de ces gars-là viennent encore du Canada, ceux qui jouent la game de la bonne façon. Et puis, tu sais, je veux dire, ça fait pas 100 ans. Là, en 2016, là, j'étais avec l'équipe Canada à Coupe du Monde. Et puis, écoute, tu avais des Crosby, Bergeron, des O'Reilly, des Jonathan Taves, des Stamkos, des Corey Perry, des Brad Marchand.
C'est peut-être la dernière vague de domination, par exemple.
C'est pas des gars qui vont finir dans les top scoreurs à chaque année. Mais c'est des gars avec le genre de joueur d'hockey-là que tu gagnes. Et puis ça, au Canada, on est encore, pour moi, le pays qui produit plus de ce genre de joueurs-là encore.
Pour le collectif, c'est... Ah, oui, vas-y, André.
Sans vouloir être chauvin, regarde le nombre de Canadiens qu'il y a dans les équipes qui gagnent la Coupe Stanley.
C'est encore majoritaire.
Majoritaire? Si tu regardes la moyenne de la Ligue, le nombre de Canadiens, exemple, par équipe, puis si tu regardes les gagnants, il y en a plus dans les équipes qui gagnent que dans la moyenne de la Ligue. Donc, ça veut encore dire pour moi que ces gars-là font une bonne job puis qu'on peut être encore très fiers de ce qui se fait dans notre pays.
C'est-à-dire,
si on compte en pourcentage, exemple, mettons, j'ai aucune idée des chiffres exacts, mais mettons, là, de 10 ans, il y avait 62% de la Ligue qui était canadien, mettons. Mm-hmm. On est peut-être rendu à 50, on est peut-être rendu à 48, j'ai aucune idée, mais ça reste que la qualité, là.
Il n'y a aucun doute là-dessus. Je t'amène sur un autre sujet. T'avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus, Stan? Vas-y.
Oui, puis parce que je faisais mes recherches dernièrement aussi. Puis on a tendance à dire on produit plus de gardiens de but au Canada. Mais on en produit encore 65% des gardiens de but sont canadiens dans la Ligue nationale. Puis on a la...
Même si on ne saurait pas, ça serait qui le gardien partant d'équipe Canada?
Exact, mais on a l'impression qu'on produit plus de gardiens de but au Canada. On a 65% des gardiens de but de la Ligue nationale, c'est des Canadiens. Fait que tout à un moment donné, faut faire attention, tu sais, quand on dit, il se fait plus rien de bon au Canada, au contraire.
Les gars, 42,5% des joueurs actuels de la Ligue nationale sont canadiens. On est passé sous la barre des 50. Si je me fie aux chiffres que je viens de trouver là en googlant, 28,5% des Américains, 9,7% des Suédois, 6,1% des Russes. Alors, puisqu'on jasait, c'est le fun d'avoir des chiffres au fur et à mesure qu'on progresse dans la conversation. André, il y a un aspect bien technique que je voulais aborder avec toi, c'est par rapport aux reprises vidéo. Es-tu un fan des reprises vidéo sur les hors-jeux, toi?
Oui, absolument. Tu sais, à un moment donné, la game va vite, puis je trouve que c'est de mettre beaucoup d'importance puis l'enjeu du match sur une décision qu'un arbitre doit prendre. Écoute, moi, je te dis, là, c'est impossible que moi, je puisse être linesman. Plus de feeling que d'autres choses. Il faut que tu vois, là, en même temps, je le regarde à la reprise, je le regarde, puis c'est vraiment serré. Mais le monde dit, ouais, mais c'est justement, si c'était rien que 2-3 pas, c'est pas la fin du monde. Ouais, mais c'est parce que il y en a un certain nombre dans l'année que c'est manqué par un pied aussi.
Oui, parce qu'il y en a qui trichent ou qui essayent de tricher un petit peu.
C'est
pas le bon mot, tricher, mais...
Mal positionné. Oui. Non, mais juste une erreur humaine. L'arbitre est mal positionné ou il l'a manqué tout simplement. Ou il y avait quelqu'un dans son angle de vision, mais il n'a pas pu voir. Puis, écoute, ça fait la différence dans un match. Puis on sait tous là, que si tu regardes les 3-4 dernières positions qui vont faire les playoffs, ça décide par un point. Parce que c'était sur le mauvais bord de cette décision-là. Mais tu peux manquer de playoff à cause de ça. Fait que moi, je suis 100% d'accord avec les reprises.
Moi, ce que je voulais savoir par rapport à... Quand un hors-jeu survient, là, même si le sifflet te fait entendre 2 minutes plus tard parce qu'il y a un but, toi, aussitôt que tu sais qu'il y a un jeu, il y a quelqu'un qui est rentré trop vite, la ligne bleue, tu le sais-tu avant même que ça siffle? Tu le sais comme... Ouais. Oui?
Ouais.
C'est comme... Mais comment vous avez une caméra fixée sur la bleue en permanence dans la chambre ou quoi?
Toutes les équipes, ils ont le même service. Je sais pas combien d'angles de caméra, ils appellent ça IHOC. Puis les vidéocoachs des deux équipes l'ont. Fait que nous autres, exemple, c'est sûr qu'il y a une entrée de zone, notre vidéocoach, il regarde l'entrée de zone pour être sûr que c'est bon ou c'est pas bon. C'est arrivé, exemple, nous autres, cette année, à un moment donné, on est en power play. On rentre dans la zone, on est hors-jeu. Mais l'arbitre colle pas l'hors-jeu. Fait qu'on l'a crié aux gars sur la glace, on wear offside pour que les gars sortent.
Wow!
Sinon, si tu casses, pas bon.
C'est bon, ça.
À l'inverse, on était justement à Los Angeles, puis on était dans l'autre zone, dans la troisième période, puis on criait au gars de sortir. On n'a pas sorti, on a scoré. On a scoré, puis le but n'était pas bon. On a retaillé la game là-dessus, juste en troisième période. Là, ouais. Là on le savait, là, quand on a scoré, les autres, ça avait été content. Tout le monde au bain, on boudait. Damn it, but c'est la réalité, mais honnêtement, c'est... Non, moi, je suis pour ça, Sam
Nolan. Ben, je suis pour ça, puis c'est moins de pression sur les linesmen, tout. Écoute, pour eux, puis même quand c'est bien, bien serré, ils vont y laisser aller en se disant, gars, si je l'ai manqué, ils vont le revoir. Donc, quand c'est très serré, ils laissent aller à cette heure. Puis,
Oui, pour le flow du match, puis bien souvent, c'est rare.
Sans nommer son nom, c'est un de mes. Un linesman qui m'a dit ça de la Ligue nationale, qui dit, gars, quand c'est bien serré, on le laisse aller.
Puis, ils ont un préjugé comme positif sur chaque jeu serré, clairement.
J'haïs pas ça.
Il n'y a pas un but à chaque fois, fait que t'arrêtes pas la game pour rien, hein, Steph?
Ouais, exactement. Fait que j'haïs pas ça. Mais c'est beaucoup moins de pression. C'est linesman. Moi, tout, j'adore ça. Et puis,
Un dernier aspect des reprises vidéo, puis Stéphane, ça te concerne, comme entraîneur des gardiens. Puis André, quand tu décides, et je veux terminer là-dessus, quand tu décides d'aller en appel sur une décision d'obstruction devant le filet, André, t'es-tu comme, t'es pas mal moins sûr que pour un hors-jeu, tu sais, 98% que tu vas gagner. C'est-tu 50-50? Comment tu vois ça? Puis c'est quoi la discussion que t'as avec l'arbitre des fois quand c'est la ligue qui révise, puis là, toi, tu te demandes si tu vas au challenge. Qu'est-ce que tu veux avoir avant de prendre ta décision puis de risquer d'écoper d'un 2?
Bon, première des choses, c'est le vidéo coach qui est responsable de ça chez nous. C'est parce que c'est lui qui révise toutes les calls qu'il y a eu dans la ligue, qui a justement qui a été called back, toutes les autres situations d'obstruction sur le gardien puis tout ça. Là. Lui, c'est sa job d'étudier ça. C'est sa job de savoir c'est quoi qui se passe dans la ligue, c'est quoi le call qui a été callé back hier à Columbus ou à Dallas ou à Los Angeles ou à Calgary. Puis c'est quoi la situation, c'était quoi le call. Fait qu'on reçoit, lui, il ramasse cette information-là puis il étudie ça. Puis moi, là, t'en arrière du bain, la game, elle roule, là, l'arbitre, etc. J'ai un petit moniteur en bas, puis j'ai pas c'est pas moi qui décide play, rewind, etc., puis de changer d'angle. C'est pas moi qui décide ça, c'est lui qui est dans le bureau là-bas. Fait que lui, là, il est assis, il y a 3-4 caméras, 3-4 moniteurs alentour de lui. Il a tous les angles de caméra, il choisit l'angle qu'il veut voir, il revise ses choses. C'est lui qui a le knowledge, là, qui a les connaissances, c'est quoi les règles dans la ligue, c'est quoi qui a été callé. Et back, quoi qu'il n'a pas été callé back. C'est lui qui prend la décision. Moi, ma discussion avec l'arbitre, n'est pas de discussion avec l'arbitre, là, c'est on challenge ou on challenge pas. Mais une fois, je dis, donne-moi. Tu sais, les arbitres, là, ils savent quand c'est le call est serré. Si le call est serré, là, eux autres aussi, ils veulent que le call soit le bon. Puis là, ils voient quand c'est serré, ils vont te donner un 10, 15, 20, 30, non pas 30 secondes, mais un 10, 15 secondes de plus pour justement t'assurer que tu challenges ou pas. S'ils sont sûrs de leur cause, là, ils te laisseront pas de temps. Là. Ils vont dire, hey, OK, ouais, là. C'est challenge pas, ouais, on drop le puck. Mais tu sais, c'est il n'a pas de
OK, mais je pensais que des fois, parce qu'on voit souvent l'arbitre aller parler avec l'arbitre ou le coach, tu as dit, le coach, je veux parler à l'arbitre, puis là, avant de dire, OK, non, je veux pas de challenge, je veux d'un challenge. Ouais, je me demandais.
Ça, on appelle ça un.
Oups, la ligne a-tu coupé, c'est drôle, puis je pensais que c'était un suspense avant de... On a perdu André momentanément. Écoute, de toute façon, on était en fin de conversation, mais je trouvais ça intéressant. Avais-tu quelque chose à ajouter, toi, sur les quand vous demandiez des challenges vidéo, Stéphane,
ben, écoute,
par rapport à un de tes gardiens ou gardien adverse?
Moi, au Centre Bell, la plupart, c'est moi qui voyais parce que j'avais les mêmes, de où j'étais sur la galerie de presse, j'avais les mêmes séquences que le coach, okay. Le coach du vidéo nous envoyait. J'avais les mêmes angles que lui. Donc, je pouvais, moi, vu que j'étais l'entraîneur des gardiens de but, je pouvais dire est-ce que c'est une interférence ou pas. Donc, je le refilais tout de suite au banc. Je disais oui ou non. C'était pas là, ah, peut-être, puis si, puis c'est ça. Puis je disais oui ou non, puis à partir de là, l'entraîneur-chef prenait sa décision. Mais c'est beaucoup de pression. Ça, à route, j'avais pas les mêmes angles, donc c'était le coach vidéo qui devait prendre, qui devait dire au coach oui ou non. C'est pas commencer à argumenter. Puis là, le coach prend la décision finale.
Pas toujours évident. Fait que André, on complétait la discussion. Dans le fond, t'as perdu au moment où t'allais compléter une phrase. Fait que
ce que je disais dans le fond, moi, c'est que, tu sais, là, vous autres, là, quand nous autres, on challenge, là, le réseau de télévision, ils ont eu le temps de ramasser leurs angles de caméra. Puis là, ils présentent pendant que les arbitres, ils regardent. Nous autres, là, c'est pas ça. C'est pas long, là. Ouais. Quand les joueurs donnent la main au banc, là, là, ça, c'est après ça que les reprises à la télé commencent. Mais nous autres, il faut déjà être prêts à prendre notre décision. Là. Oui, là, c'est. Il nous reste 15-20 secondes à ce moment-là là, pour dire, OK, on challenge ou on challenge pas. Je vais vous dire de quoi le vidéo coach puis le goalie coach, parce que notre goalie coach dans les goalie obstruction, là, lui, il est impliqué là-dedans. Mm-hmm. Lui, il donne son opinion et tout ça. Je vais dire de quoi, c'est pas long, là. Ça a l'air bien, bien long, là, mais.
Là, ça va vite en maudit.
Tu te fais scorer, que tu recules la vidéo, que tu places, que tu regardes l'angle que tu veux, etc. Puis prendre la décision, je vais dire de quoi, là. Le monde pense qu'il regarde ça au slow motion. Il regarde pas mal plus ça au fast forward qu'au slow motion.
Ça va vite. Ça va vite, c'est incroyable. On a-tu le temps pour une dernière question?
Je sais pas, André, on a-tu le temps?
Oui.
Écoute, qu'on parlait tantôt, moi puis Mario, tu sais, on dit souvent depuis 2 ans à Montréal, hey, ils ont pas de pression pour les playoffs, ils ont pas de pression de ça. Puis moi, tantôt, je dis à Mario, puis je veux te le demander. J'ai dit, ça, c'est pas vrai qu'ils ont pas de pression. Dans le sens que, t'as une pression. Moi, je l'ai vécu à Chicago, où ce qu'on disait, bon, on construit, on reconstruit. Et puis, j'étais là pendant tout le processus, mais on avait une pression, c'était de progresser. Puis ça, c'est quand même une pression de progresser, parce que si tu progresses pas, t'es out. Fait que ça, quand on dit ça, il n'y a pas de pression, pas de pression. Hey, on a la pression, peut-être pas de faire les playoffs, mais on a une pression de progresser. Et puis, si tu progresses pas, tu vas payer pour. Dans ton cas, ça ressemble à quoi?
Ben oui, c'est exactement ça. T'as une pression de maximiser ton groupe. C'est ça. C'est la pression. Écoute, ben, c'est pas compliqué, là. Nous autres, moi, je veux, les joueurs veulent que notre organisation continue à investir et améliorer l'équipe au présent. On veut, là, que, un peu comme Martin Saint-Louis, là, il tente pas, là, qu'il échange qu'il échange Nick Suzuki pour 2 premiers choix puis 2 bons jeunes, là.
Ben non.
Il veut. C'est le contraire. Il veut que l'organisation continue à rentrer des joueurs qui vont les aider à gagner au présent ou dans un futur très rapproché. Puis, si tu performes pas, si, mettons, là, exemple, nous autres, les Coyotes, là, on est dernier au classement cette année, là. Mettons que là, ça va pas bien, la deuxième moitié de saison, puis on est dernier. Pensez-vous que l'année prochaine, nos propriétaires, puis mon GM vont essayer d'aller chercher des joueurs pour essayer de nous améliorer au présent le plus vite possible? Non, ils vont continuer, ils vont dire, OK, nous autres, c'est dans 2, 3, 4, peu importe le nombre d'années. Tu sais, fait qu'on n'a pas de pression autant que c'est de suite. T'sais, mon chum, Pierre Cloutier, dit tout ça. Ça presse pas autant que c'est de suite.
Ça presse c'est pas autant que ça marche.
Nous autres, on veut maximiser ce qu'on a pour s'asseoir à la fin de la saison avec mon boss s'assied avec moi, puis que moi, je m'assied avec notre staff, puis qu'on dise, OK, voici ce qu'on avait entre les mains, voici ce qu'on a fait avec. OK, est-ce qu'on est satisfait? Est-ce qu'on a soutiré ce qu'on pensait de cette gang-là? Puis après ça, OK, c'est quoi qui manque pour qu'on fasse un autre pas l'année prochaine? Qu'on fasse un autre pas. Puis toutes les équipes sont de même. Dallas se sont testés à la fin de l'année, même s'ils ont une bonne saison, mais ils ont dit, OK, là, il faut faire un autre pas. Qu'est-ce qui nous manque? Puis Colorado, même enfant, ils ont dit, OK, là, on a gagné comme ça il y a 2 ans, là, on a descendu cette année. C'est quoi qui nous manque? Et c'est tout le temps ça. Tu veux faire le next step? Mais plus t'es proche, plus les gens qui prennent les décisions ont envie de maximiser ce qu'on a besoin pour l'année prochaine. Quand, exemple, Anaheim, quand ils se sont assis l'année passée, là, ils se sont pas dit, OK, il faut aller chercher 3 bons vétérans pour essayer de rentrer dans les playoffs. Ils se sont dit, OK, l'année prochaine, faut faire un autre step, puis ils font un job absolument extraordinaire, etc., etc. Mais c'est pas la même chose que tu veux te rapprocher le plus possible pour que justement les gens qui prennent des décisions t'aident le plus possible.
André, un gros merci de ton temps. Bonne chance demain contre les Blue Jackets. Salutations à Pascal que tu vas sans doute croiser dans un corridor demain avant ou après le match. Salut, mon André.
Exact. Merci, messieurs. Bye-bye. Hey,
bye-bye.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Antoine Roussel qui est avec nous ce soir. Antoine, tu m'en voudras pas d'avoir mis de côté ton intro de Rooster ce soir. Comment tu vas?
Non, ben vraiment pas. Je te dirais un petit peu ému parce que les Cowboys fringants, pour moi, ça me rappelle tellement des bons souvenirs, notamment mon arrivée au Québec quand j'étais jeune adolescent. Après ça, quand j'étais dans le junior majeur avec les Saguenayens de Chicoutimi, ma famille de pension m'avait acheté le CD droit devant pour Noël. Et puis après ça, ben, avec l'Amérique qui pleure, hein, en plein moment de la pandémie, écoute, je l'ai tellement entendu sur la route qui a relié Vancouver à Chicoutimi quand je suis revenu en VR, parce que à l'époque, on n'était pas au fait des dangers de la COVID et puis de ce que ça représentait. Fait que, comme tout le monde, on avait un petit peu peur de ça. Fait qu'on avait décidé de rentrer en VR, puis ça avait été toute une run. Puis je l'avais tellement écouté, cette chanson-là, puis à penser à tue-tête, puis c'est tellement ça, les Cowboys, pour moi, c'est l'identité, ça fait partie de l'identité du Québec, puis c'est vraiment triste, puis je pense qu'à l'image de beaucoup de Québécois, j'ai du chagrin un petit peu en y pensant.
Écoute, il y a un texto, il y a une pluie de beaux textos très, très touchants. Mais il y a quelqu'un qui m'écrivait, là, je l'ai perdu parce qu'il y en a probablement 20 qui sont tombés depuis que je l'ai lu il y a une minute, genre. Mais quelqu'un m'écrit, et je le salue, Sean, dit, c'est bizarre comme feeling. La personne dit, je pleure, ça fait 3 heures sans cesse, moi aussi. Carl et les Cowboys ont fait partie de ma vie depuis le plus loin que je puisse me rappeler. Il dit, c'est bizarre comme feeling. J'étais dans le trafic plus tôt et j'ai vu tellement de gens pleurer seuls dans leur voiture. C'était complètement fou. Je ne sais pas comment l'expliquer. Tu sais, des fois, ça t'arrive-tu à une lumière rouge, tu regardes à côté, là, tu sais, voir qu'est-ce qui se passe dans le véhicule du voisin. Puis, tu sais, des fois, tu vois tout le monde rire en même temps. Tu dis, bon, coudonc, ils ont-tu pris un de nos moments d'humour? Ouais, c'est ça, mais là, c'est exactement le contraire, hein?
Ben, écoute, ça m'arrive aussi d'avoir des moments de même, puis que tu pleures, puis... Écoute, quand j'ai appris la nouvelle, c'est sûr que c'est une douche froide pour de vrai, là, parce que, comme je te le disais, pour beaucoup de Québécois, je pense que la musique, ça les rapproche, puis c'est beaucoup de souvenirs aussi pour les gens, puis pour moi, tu sais, quand je pense juste à ma vie personnelle, c'est beaucoup de souvenirs sont rattachés à cette musique-là, puis ça partira jamais, mais écoute, c'est ça va être quand même un vide de se dire que on n'aura plus de nouveautés à ce niveau-là de la part du groupe au complet.
Tellement. Tellement.
J'anticipe que tu sais ils vont probablement continuer, mais ça sera peut-être pas pareil, peut-être ça sera mieux, mais ça sera des gros souliers à chaud si on s'est
sûr. Il n'y a aucun doute. À travers tout ça, on est entre deux matchs. Le Canadien, d'ailleurs, a émis un communiqué officiel. Les Canadiens sont en deuil suite au décès de Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys fringants, remarquait tout jamais la scène musicale québécoise, écrit-on, faisant vibrer l'identité de notre belle province. Nos pensées accompagnent ses proches en cette période difficile. Puis j'espère... Je trouve qu'il y a toujours de la place pour un petit peu plus de musique francophone, bonne musique francophone au Centre Bell. Fait que ça va être comme devise d'entendre du bon Cowboy fringant pour donner le ton contre un match contre une grosse équipe. Demain, les Golden Knights de Vegas. Hier, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre-là où, bon, Markstrom a été probablement le meilleur joueur sur la glace, mais toi, qu'est-ce que tu as vu?
Ben écoute, je t'ai écouté hier, Mario, en descendant juste après la game. Je t'ai écouté tout le long, quasiment jusqu'au Saguenay. Puis on avait sensiblement les mêmes analyses. Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu. Puis on parle d'une équipe qui est quand même en reconstruction. Puis ce qui est important dans ces équipes-là, c'est que le travail soit toujours et primordialement présent à chaque présence. Puis c'est ce qu'on voit. Des fois, t'as des séquences où l'équipe va un petit peu moins bien, mais depuis les 3-4 derniers matchs, ça s'est quand même replacé à ce niveau-là. Puis ça, c'est vraiment important. Fait que j'ai l'impression que l'équipe sur place, puis on en a discuté à maintes reprises, là, pour moi, Slavkovski continue de monter des marches tranquillement. Il se rapproche. C'est pas parfait tout le temps, mais écoute, son jeu avec la rondelle, la manière dont il se positionne son corps, a fait un beau jeu qui a amené à un but. Puis ça, c'est tellement le fun pour un joueur quand tu crées de l'offensive de cette manière-là. OK, il y a eu une deuxième passe, mais somme toute, le jeu part de lui. Il a été capable de se débarrasser d'un défenseur en faisant un virage pivot rapide vers le fond de la patinoire, puis il s'est créé de la séparation qui lui a permis de se lever la tête, prendre son information, scanner la glace et faire un beau jeu simple. Mais ça a amené un but. Puis ça, quand t'en fais plusieurs, ben tu commences à prendre goût à en faire des jeux comme ça. Puis ça, c'est là que ça rentre dans le corps. Puis c'est ça qu'on voit. Puis pour moi, c'est vraiment ça que je trouve excitant dans le cas du Canadien. C'est parce que depuis le début de la saison, on a beaucoup de négatifs qui entourent Slavkovski. Il y a beaucoup, puis c'est difficile de se projeter à long terme dans son cas. Puis je trouve que ça calme les ardeurs de beaucoup de monde quand il y a des performances de la sorte. Mais il faut pas oublier qu'il va en avoir des moins bonnes performances. Mais au final, moi, quand je le regarde, puis on pousse l'analyse un petit peu plus loin ce soir, moi, j'ai joué avec Valérie Nichushkin à Dallas ses premières années.
Oui.
Puis quand je regarde Slavkovski, je vois les mêmes affaires que ce que je voyais en bas. Un joueur énorme, avec des bonnes mains, gros, costaud, mais à ce moment-là, il comprenait pas la game. Puis quand je repense à certains scénarios, ben des fois, je trouve que Slavkovski est peut-être un petit peu en avance sur Val. Puis Val, ça a pris vraiment longtemps avant qu'il éclose, puis qu'il se sente bien, puis qu'il performe. Écoute, il a joué 3 ans avec les Stars. Après ça, il est reparti en Russie pendant quelques années. Il est revenu. Puis c'est là que ça s'est replacé, puis ça a décollé dans son cas. Pour te dire, les Stars avaient abandonné dans son cas. Puis c'est vraiment au Colorado qui a eu sa progression, puis qu'il s'est vraiment établi en joueur qu'il est en ce moment. Donc, puis ça a pris un certain temps. Fait que faut mettre ça en perspective des fois quand
c'est intéressant ce que tu dis là, tu sais, parce que bon, 6'4", 210, c'est ça qu'on donnait là comme profil de joueur. Fait que c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. Juraj est un petit peu plus lourd que ça selon les données disponibles, mais tu sais, c'est un autre club, les Stars, qui l'avaient amené dans la Ligue nationale, si je me trompe pas, dès l'année de son repêchage. Hein? Ils l'ont repêché en 2013, absolument. Fait qu'il a commencé direct dans la ligue. Fait que tu sais, j'ai l'impression que C'est ça, les équipes, tu sais, parce que, puis c'est correct. Mais, là,
Valérie Nichushkin, si c'était pas un Russe, il était probablement repêché premier overall, là. Sincèrement. Là.
Ah ouais, tu penses, hein?
Lui, c'est le facteur russe qui a fait peur à beaucoup de monde, puis que le monde se sont dissociés, puis on le voit tellement, là, tu sais, avec plein de joueurs, année après année, que ça glisse. On a juste à penser à Michkov, puis on... parce qu'il était en contrat, puis peut-être que dans quelques années, peut-être dans 2 ans, il va arriver, puis il va nous en mettre plein les yeux, mais c'est le facteur russe refroidit certaines équipes, puis c'est pour ça que tu es capable des fois d'avoir des joueurs qui glissent en milieu de première ronde ou en fin du top 10 pour les ramasser, mais qu'il aurait dû probablement, si ça avait été un Canadien, il aurait été probablement leur pêcher premier au total ou dans le top 3.
Moi, ce que je remarque particulièrement, là, je pense que Martin Saint-Louis doit travailler de plus près et les autres entraîneurs. Je pense que Martin l'a dit d'ailleurs qu'il l'avait laissé comme plus lousse l'an passé. Il l'avait laissé grandir. C'est sûr que les coachs y parlaient, mais je vois dans la progression de son jeu, je trouve qu'il est entré dans une autre cadence d'apprentissage. Je trouve que d'un match à l'autre, il y a toujours un petit peu de nouveau, un petit quelque chose de plus. Il y a pas la production. Fait que je me dis qu'il est coaché de plus près probablement. Il reste que si tu penses à l'équipe, cependant, ce qui est bon pour l'un est-il nécessairement bon pour l'équipe dans l'année 2023-2024, bien que j'adore le kid puis j'ai très confiance positivement en ce qu'il va devenir, là. Mais tu comprends ce que je te dis, Antoine, par rapport à ça? Tu sais, le reste de l'équipe, tant que l'équipe n'a pas l'impression de souffrir, qu'on fasse du développement, mais tu sais, ce qui est vrai pour lui est vrai pour un vétéran comme Anderson qui produit pas plus sur un deuxième trio également. Mais comment tu départages ça par rapport au reste de la chambre?
Ben, c'est compliqué parce que là, tu fais du cas par cas. Lui, il est rentré dans la Ligue nationale, puis on lui a fait une place. T'sais, il n'a pas bougé quelqu'un pour arriver là. Donc, c'est sûr que des fois, quand tu es dans une méritocratie, puis que c'est ça que tu veux instaurer, c'est compliqué, puis c'est pas évident. Mais il y a certains scénarios que tu n'as pas le choix, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Puis même à l'interne, tout le monde n'est pas complètement idiot non plus, là. Tu sais très bien qu'un choix de premier au total, l'équipe va s'organiser pour que ça fonctionne. Puis je pense, en tant que coéquipier, tu l'acceptes. Puis aussi longtemps que ton joueur travaille, puis c'est continue de pousser dans la même direction que le club. Que ça fonctionne pas, ça peut arriver. Ça arrive aussi, mais faut vraiment que ça pousse dans la même direction.
Ouais. Manque de finition, c'était la thématique hier soir. On va en parler avec Martin McGuire tout à l'heure qui était dans le vestiaire, là. Puis particulièrement Josh, c'est épouvantable, là. Écoute, je sais pas si t'as vu des buts avant de ce Marketplace ou PJJ, là, mais c'est épouvantable.
Moi, j'ai déjà demandé à mon père, quand je jouais pour les Saguenay de Chicoutimi, de m'acheter un chandail de Kovalev parce que peut-être que ça allait me donner des mains. Puis curieusement, puis c'était dans le temps des fêtes, puis sérieusement, ils m'ont l'ont acheté. J'ai dormi avec pendant une semaine, là, je te dis, pendant le break, la pause, dans le fond, du junior, dans le temps du temps des fêtes. Je suis revenu, j'ai remarqué tout de suite.
C'est bien pour dire.
Des petites affaires. Je pense qu'il traîne encore chez moi, là, ce chandail-là de Kovalev. Je ne l'ai pas remis souvent. Bien que j'ai besoin de moins de mains qu'avant, mais je sais pas, peut-être qu'il serait intéressé.
Comme quoi, on a peut-être plus de pouvoir surnaturel que l'on croit si l'on se fie à l'histoire notamment que racontait Martin hier. Il avait déjà raconté il y a un bout de temps, Martin, avec Danny, après ou avant le match, par rapport au fait que Carey Price, qui voulait aider Josh Georges à sortir d'une longue léthargie, avait parsemé des bouts de bâton tout autour de l'aréna, je me souviens pas dans quelle ville, pour, je sais pas comment, envoyer les mauvais esprits ou attirer les bons. Puis Josh, qui est quand même un défenseur, ce qu'il aurait pas souvent, avait marqué ce soir-là. Alors, écoute, faudrait pas négliger nos petites cérémonies. Des fois, ça aide, Antoine.
Absolument, oui, c'est clair. Puis, mais t'es tellement, quand t'es un joueur, là, t'es tellement superstitieux pour certaines affaires. Puis, j'en connais pas beaucoup du monde qui sont pas superstitieux. À tel point que, des fois, des joueurs se disent pas superstitieux, puis leur superstition, c'est de pas être superstitieux. Puis, c'est incohérent, mais ils changent leur routine en permanence. Puis ça, c'est je suis avec Cody Eakin, puis c'est ça, c'était son mot d'ordre. Non, moi, je suis pas superstitieux. Puis il faisait toujours des affaires différentes, mais en soi, ça fait partie un petit peu d'une superstition. Moi, ce que j'aime, c'est je suis un petit peu superstitieux. Comme, je sais pas si j'ai déjà compté celle-là, Mario, mais quand j'étais à Dallas, moi, puis dans toutes les équipes de la Ligue nationale, il fallait toujours que je m'assise à gauche dans l'autobus. Puis à un moment donné, là, on joue à Dallas, puis j'étais blessé, puis je suis le dernier à rentrer dans l'autobus. Je monte dans l'autobus, toute l'équipe est assise à gauche. Toutes les bords là, sont tous.
Les gars le savaient?
Moi, parce qu'une fois, j'avais dit, ah non, moi, je m'assis jamais à droite, les gars, toujours à gauche.
OK.
Puis, j'avais dit, ma faire de même. Mais tu sais, les gars dans la chambre, c'est toujours des boutons en train, ils sont toujours en train d'essayer de tirer la pipe à quelqu'un d'autre, puis tu sais, à se niaiser un peu. Fait que tu sais, tu laisses une petite affaire de même, tu dis ça comme ça, puis si tu penses que ça va passer tout seul comme une lettre à la poste, eh non, les gars, ils ont une bonne mémoire. Fait que là, je suis rentré dans l'autobus, tout le monde était à gauche, fait que là, j'ai été obligé de faire la ride à droite. Et là, j'avais chaud, j'étais pas bien. Mais tu sais, pour ça, pour revenir à Anderson, tu sais, quand t'es joueur, t'es superstitieux, puis quand ça va moins bien, là, c'est un calvaire, c'est dur, t'as des chances de marquer, ça continue à t'encourager, mais t'aimerais tellement ça pour de vrai que ça rentre. Puis tu le vois, hein, dans chaque équipe, il y en a plusieurs des joueurs qui vivent ça. Puis écoute, c'est continuel.
Eh bien, un petit aperçu de ce à quoi tu t'attends demain contre Vegas, Antoine, en terminant. Mais ça devait être toute une scène, j'imagine, la scène dans l'autobus. Ça devait être rigolo. C'est ça qui fait la camaraderie. Ça va prendre plus que de la camaraderie demain quand même pour gagner contre Vegas. On a donné un bel effort sur la route. Là, à domicile, Vegas qui s'est incliné contre Washington va arriver avec l'intention de partir avec les deux points.
Ben, c'est officiel, puis c'est la meilleure équipe de la ligue, donc ils veulent repartir avec le plus de points possible, puis d'avoir la route vers les séries éliminatoires la plus facile possible. Donc quand ils regardent une équipe comme le Canadien, ben c'est sûr que la première fois ils les ont peut-être pris un petit peu pour acquis. J'ai tellement hâte de voir le match de demain parce que là ils seront plus surprendre. Puis si le Canadien performe comme ils l'ont déjà fait, puis comme ils font dernièrement. Ben, ça peut vraiment être encourageant si tu avais une grosse, grosse performance de toute l'équipe.
Ben, on a hâte de voir ça. Puis quand tu reprends la route en remontant, là, gêne-toi pas de me lâcher un coup de fil, mon Antoine. On va s'accompagner pendant un bout de chemin.
ça a bien fait parce que ça a passé un bon bout de la route. Puis il y avait du bon. Des bonnes opinions, puis c'était le fun. Des fois, je n'étais pas toujours d'accord, mais ça arrive.
Il y en a qui voyaient des gosses traîner les pieds. On n'avait pas tous vu la même chose, mais en tout cas, on avait un manque de finition. Antoine Ingros, merci. Bye-bye. Bonne soirée, mon ami. Bye-bye. OK.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Touché! Pour les fidèles du sport.
Les Alouettes à la Cokeberry, les préparatifs se poursuivent pour le match qui sera présenté sur nos ondes, bien sûr, dimanche, précédé d'une émission spéciale à partir de l'après-midi. Avec nous, il est l'entraîneur adjoint à Jason Moss, l'entraîneur-chef, aussi coordonnateur des unités spéciales, Byron Archambault, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Byron.
Salut, comment ça va?
Ça va très, très bien, mais je suis plus curieux de savoir comment ça va, vous autres. Est-ce qu'on peut dire que là, toute la concentration est vraiment sur le match de dimanche? Et si c'est le cas, j'imagine que oui. Depuis quand, là, vous avez retourné la switch en mode préparation pour le match de dimanche?
100%, mais ça va super bien dans le vestiaire. Il y a de l'énergie, les gars sont excités. C'est sûr que c'est la Coupe Grey, ça vient avec beaucoup d'excitation, beaucoup de pièges, de distractions, mais je sens que les gars sont focus. Nous autres, on s'est mis en marche pour la préparation. Là, en fait, même avant le match, les coachs, on commence déjà là à break down, à préparer là, les parties pour être capable de présenter toutes nos idées puis toutes les choses qu'on va faire. Dans le fond, on fait ça avant la game, donc c'était un quick turnaround, comme on dit. Là, on s'est ajusté rapidement, puis la mode préparation, avant, même dans l'avion, en revenant, on était déjà en train de se préparer à ça.
Ben justement, c'est quoi le souci des entraîneurs? Une fois que tu savoures puis que tu célèbres comme il se doit une grosse victoire comme celle de samedi, là, quand Jason et toi et les autres vous parliez ensemble, là, qu'est-ce que vous vous disiez que vous deviez faire pour ramener l'attention de tout le monde à la bonne place?
Ouais, ben savourer là, cette victoire-là. On en avait parlé avec une couple de coachs, puis c'est vraiment le moment là où tu arrives dans le vestiaire des entraîneurs, là, puis là, tu peux juste t'asseoir, puis tu es capable d'expirer, là, puis juste te dire « Oh wow, OK ». On vient de faire ça, on s'en va où est-ce qu'on s'était dit qu'on allait aller, on s'en va à la Coupe Grey. On parle de ça depuis le début de l'année. Tu sais, c'est ce moment-là là, qu'on s'en va, mais c'est un moment qui est court parce que si tu te dis bon ben OK, là on s'en va de bord, on est en mode de préparation là, pour Winnipeg, puis c'est un gros adversaire. C'est un adversaire qui a été là 4 fois de suite. C'est un adversaire qui est bien rodé. Mike Cochet, le head coach, fait une super de bonne job. On voit ça sur les 3 phases du ballon. Donc, tu sais, c'est. OK, ben là, faut préparer notre équipe à y aller, mais c'est une équipe qui a faim, c'est une équipe qui a beaucoup d'énergie, c'est une équipe qui s'est améliorée tout au long de la saison. On a fait certaines erreurs pendant des matchs plus tôt, mais on a corrigé, on est en mesure de corriger ces erreurs-là. Donc, on sent qu'il y a un vestiaire confiant ici.
Par rapport à l'aspect d'être prêt pour le match de dimanche, j'ai envie de penser, Byron, sans essayer de vous challenger ou quoi que ce soit, que compte tenu, puis je sais qu'il y a eu des changements dans leur alignement, mais que ça fait 4 années de suite qu'ils vont à la Coupe Grey, que Winnipeg est prêt. Ils connaissent les pièges à éviter d'une telle semaine. J'aurais envie de penser que les Alouettes, moins. Comment faire en sorte de mettre ça égal quand on arrive sur le terrain dimanche puis de pas avoir été distrait?
C'est fair comme évaluation parce que c'est un fait que en termes de groupe, tu sais, malgré les changements comme dont tu fais allusion, en groupe, ils ont été ensemble. L'affaire, c'est que dans notre staff, il y a beaucoup de gens aussi qui ont été capables d'aller à des Coupe Grey. Il y en a qui en ont gagné. Il y a des joueurs il y a des coachs qui l'ont fait comme joueur. Il y a des joueurs qui l'ont fait ailleurs. Et on a senti un partage de toutes ces expériences-là dans nos salles de meeting, dans notre vestiaire. On a senti qu'il y a eu beaucoup de leadership tout au long de l'année, tu sais, puis on a des standards, puis on parle constamment de ces standards-là, puis c'est des standards qui mènent à une équipe championne, c'est des standards qui t'amènent, dans le fond, jusqu'à la fin, là, au niveau de cette saison-là, puis on s'est tenu étroitement, là, face à ces standards-là, on s'est rapproché, là, le plus possible, dans le fond, là, de ces standards-là, de perfection, dans toutes les phases du jeu. Donc, c'est pour ça qu'on a une équipe qui est confiante, parce que c'est une équipe qui a été laissée de côté au début de l'année. C'est une équipe que les gens doutaient qu'il y avait peut-être les capacités ou les ressources pour se rendre en termes de talent. Puis, les gars, là, ont surperformé, dans le fond, au niveau de ces attentes-là, mais c'était une performance que nous, on savait qu'on était capable de faire. Donc, on sait ce qu'on est capable de faire. Puis, si on joue du bon football, du football clean, du football où tu sais, tu te pas dans le pied, comme on fait là, dernièrement sur la lancée sur laquelle on est capable de battre puis de jouer contre n'importe qui. Donc, c'est ça le sentiment.
As-tu l'impression, Byron Archambault, que la ligne offensive peut donner une petite fraction de seconde ou deux de plus sur une coupe de jeu de plus au quart arrière Fajardo pour le match de dimanche? Est-ce que, je sais pas si PO va être de retour, PO le stage sur la ligne offensive, mais c'est une bataille importante qui va se dérouler là.
100%, c'est un bon point parce que t'as Willie Jefferson, t'as Jackson Jeffcoat, t'as des joueurs là d'expérience qui mettent de la pression sur les corps adverses. Il y a beaucoup, des fois, là, sur la pression, on évite là, à pointer du doigt la ligne offensive. T'sais, je pense qu'il y a un mix de tout. En termes de prise de décision, je pense que tout
la vitesse à laquelle le ballon sort aussi, évidemment. Là.
Exactement. Donc, tout ça, ça se met ensemble. Puis on a été à l'interne, dans le fond, on a été capable de se dire, bon, ben, gars, on n'a pas une fois du doigt ici. C'est pas juste une unité. Tout ça, ça peut se corriger ensemble. Puis, comment qu'on peut faire pour corriger ça? Puis, c'est sûr qu'il y a des parties, il y a des fronts qui sont un peu meilleurs que d'autres défensivement. Je pense que Toronto a vraiment un très, très, très bon front défensif avec Oakman, Folarin. Tu sais, il y a beaucoup de pression. Donc, il y a beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup de ressources qui ont été investies dans leur front. C'est une excellente équipe là, mais je pense que c'est sûr qu'il y a du bon travail à faire, mais on est une équipe qui est en mesure de faire ça. On a de l'expérience là, puis on sait comment s'ajuster.
Où vois-tu les gros défis à surmonter pour sortir vainqueur dimanche quand tu analyses la formation des Blue Bombers de Winnipeg?
Ben, c'est un quart arrière d'expérience. Ils courent bien le ballon. Ils ont un bon front défensif. C'est un staff puis une équipe qui est bien rodée. Mais c'est juste de jouer notre football à nous puis d'éviter les pièges de la semaine. Donc, tu as fait allusion plus tôt, puis je trouve que c'est un excellent point parce que ces pièges-là, pendant la semaine de distraction, puis d'être émerveillé par le fait que tu t'en vas à la Coupe Grey, il est vraiment là le problème. Parce que nous, quand on se concentre sur nous, puis qu'on fait ce que nous, on a à faire, on est une équipe qui est vraiment difficile à jouer contre. Puis c'est ça qu'il faut qu'on se garde en tête, c'est ça qu'il faut qu'on se rappelle, parce que c'est comme ça qu'on a gagné, puis c'est comme ça qu'on a gagné contre une équipe comme Toronto, où peu de gens pensaient qu'on était capable de faire ça. Donc, c'est en se concentrant sur nous, en s'écoutant, en restant proche, puis se serrer comme vestiaire, c'est comme ça qu'on finit par battre là, des équipes comme ça.
Quel est l'agenda des prochains jours, Byron? On est mercredi soir au moment de cette conversation, donc il vous reste jeudi, vendredi, samedi. Je sais que le gala des honneurs individuels, je sais pas si toute l'équipe y est assise. Vous avez quelques représentants, en tout cas?
Mm-hmm, oui, c'est comme une vingtaine de personnes, dans le fond, qui y vont. Puis demain, c'est notre grosse journée. Demain, c'est une journée où notre plage horaire de pratique est plus longue, il y a plus de périodes. C'est notre grosse journée de travail. Généralement, on a orchestré ça là, pas mal de la même manière toutes les semaines où notre day two, comme on appelle. Aujourd'hui, c'était day one, notre day two. Demain, c'est vraiment notre grosse journée. Meeting, travail sur le terrain. Puis on est une équipe qui travaille fort. On est une équipe qui pratique de manière intense. Puis c'est comme ça qu'on est capable de faire en sorte que les parties sont réciproques à ce qu'on voit pendant la semaine de travail. Tu sais, you practice like you play. You play like you practice. On dit ça en anglais, tu joues comme tu pratiques. Oui. C'est vraiment quelque chose qu'on a ressenti cette année. Donc, on garde la même formule. Demain, c'est notre grosse journée. Puis là, après ça, c'est sûr qu'on prend soin du corps des gars. On repose les gars là, un peu plus quand on approche vers la partie. Donc, demain, grosse journée, puis on va faire du bon boulot.
En espérant que vous aurez la même discipline que lors du dernier match, parce que ça aussi, c'est une des clés, à mon humble avis, de la victoire. Coach Moss l'a bien souligné après la rencontre dans le vestiaire. Il faut vraiment garder la tête froide, même si ça va être un match chaudement disputé.
Absolument, absolument. Excellent point. Puis, tu sais, plutôt pendant la saison, il y a eu des moments où, des fois, contre Winnipeg, justement, on a eu plusieurs punitions. Puis,
oui.
C'est ça qui nous a tiré dans le pied dans une game comme ça. C'est pas le manque de talent, c'est pas le manque d'expérience. Ça reste une game de football sur le terrain. Oui, ils ont été quatre fois, mais c'est pas la même équipe qui a été quatre fois. Puis c'est nous, on se concentre sur nous, puis on soigne ces détails-là comme on a été en mesure de faire. On est sur une excellente lancée là, en termes de discipline. C'est une équipe qui a appris de ses erreurs tôt dans la saison puis qui a été en mesure de les corriger. Donc, en s'assurant de rester sur cette ligne-là, on va être capable de livrer un excellent match. Là.
Ben, bonne semaine d'entraînement. Bon jour 2 demain. Bon day 2, Byron. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et bonne chance à ceux qui sont en nomination pour des honneurs individuels demain soir, bien sûr, parmi les Alouettes.
Merci beaucoup. C'est super apprécié.
Merci. Byron Archambault, donc, entraîneur des unités spéciales et adjoint à Jason Moss.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.